Un colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Jean Leclan, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et François Desroches, correspondant de l'Académie et président de la SEMPAM, viennent nous présenter la journée d'études nord-africaine du 24 mars 2006. Cette journée d'études s'est déroulée dans les locaux de l'Institut de France, dans la fameuse grande salle des séances, où, pour mémoire, il y a bien longtemps, Champollion est venu présenter la pierre de Rosette. Ce colloque, qui a duré un jour et qui est ce qu'on appelle une journée d'études, a été organisé conjointement par l'Académie des inscriptions et belles-lettres et la Société d'études du Maghreb préhistorique, antique et médiéval, connue sous le sigle SEMPAM. Cette fois, car cette journée d'études se tient une fois par an, le thème retenu était celui de l'habitat dans l'Afrique du Nord, antique et médiéval. Les organisateurs ont réuni des archéologues des deux rives de la Méditerranée pour évoquer les richesses du patrimoine, des palais, des villas, des insulae de Tunisie, de Mauritanie, du Maroc et d'Algérie. Les découvertes des différentes fouilles archéologiques ont montré l'activité de la recherche sur l'Antiquité romaine, la période fatimide et ottomane. On pourrait ajouter que c'est sur les traces de Georges Lancel pour lui rendre hommage que des archéologues du Maghreb et de France s'interrogent sur les problèmes de sauvegarde et ouvrent de nouvelles pistes de recherche pour les jeunes chercheurs. Jean Leclan et François Desroches, bonjour. Bienvenue dans l'émission En Colloque, dont la mission est de porter à la connaissance du public les travaux des académiciens et des chercheurs qui les accompagnent dans le cadre de colloques, journées d'études qui ont lieu à l'Institut de France ou en lien avec les cinq académies. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter. Jean Leclan, vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Vous êtes déjà venu sur notre antenne pour nous présenter le dictionnaire de l'Antiquité, publié au PUF à la fin de l'année 2005, ouvrage que vous avez dirigé. François Desroches, vous êtes correspondant de l'Académie. Vous êtes directeur d'études à l'EPHE, l'École pratique des hautes études, spécialiste du manuscrit arabe. Vous êtes directeur, en fait, précisément, de la section des sciences historiques et philologiques, antiquité et codicologie arabe. C'est difficile à dire. Aujourd'hui, c'est en tant que président de la SEMPAM, je rappelle qu'il s'agit de la Société d'études du Maghreb préhistorique, antique et médiéval, que je vous accueille auprès de Jean Leclan. Alors, Jean Leclan, l'intérêt que porte l'Académie aux études sur le Maghreb n'est pas nouveau. Parlez-nous du lien entre l'Académie et le Comité des travaux historiques et scientifiques qui est né à la fin du XIXe siècle.
Bien, notre Académie, parmi ses champs d'études, à côté de l'Antiquité classique, des études médiévales, de l'orientalisme, se particulièrement intéressé par les rapports qu'il y a à travers la Méditerranée et plus spécifiquement les rapports qu'il y a entre la France et ce qu'on appelait l'Afrique du Nord et maintenant, de façon générale, le Maghreb. Et par conséquent, ce type d'étude, dès le XIXe siècle, a été fort développé, d'une part en particulier, étant donné la vocation dans les études de l'Antiquité gréco-romaine, les rapports entre l'Afrique du Nord romaine, les monuments romains d'Afrique du Nord, et le reste de l'Empire romain. Naturellement, une expédition comme celle des années 1830 en Algérie suscitait des curiosités et très rapidement, les militaires installés en Algérie ont fait appel à des archéologues français pour s'intéresser aux ruines romaines et en particulier à l'interprétation des nombreuses inscriptions trouvées à travers le pays.
On a donc lancé des explorations scientifiques dès le début de la conquête.
Naturellement, des expéditions, les officiers ramassaient des pierres, les villageois leur apportaient des antiquités. Tout cela suscitait un regain de curiosité. Et, comme vous le savez, l'Afrique du Nord avait été, l'Africa, une zone d'intérêt considérable pour les Romains eux-mêmes. Naturellement, il y avait non seulement des antiquités romaines, mais aussi des antiquités chrétiennes est fort intéressante pour les origines mêmes du christianisme. Tout ceci a donc déterminé le fait que, petit à petit, à l'intérieur de l'Académie, a été constituée une commission pour étudier ces problèmes de l'Afrique du Nord. Et lorsque la France s'est installée en Tunisie en 1880, puis enfin au début du XXe siècle au Maroc, il est évident que les érudits latinistes, en particulier de notre académie, ont été très en rapport avec tous ces problèmes. Voilà, si vous voulez, de notre côté, le fait qu'il y avait une commission de l'Afrique du Nord. Ensuite, l'intérêt s'est porté. Guizot avait créé un comité des travaux historiques et scientifiques. C'était naturellement les mêmes savants, si vous voulez, qui se retrouvaient là, dans une partie particulièrement, un secteur particulièrement vivant de ce comité des travaux historiques et scientifiques. Il s'est donc trouvé que finalement, par le biais de ce comité, notre académie a été très prise par ces problèmes. Dans 7 ou 8 ans, le comité des travaux historiques et scientifiques s'étant réorganisé, il s'est trouvé que choses sont restées un petit peu en l'air.
Voilà, je crois qu'en 2000, le comité des travaux historiques et scientifiques est réorganisé statutairement. Et là, une des commissions, justement, c'est celle que vous évoquez, est supprimée unilatéralement. Alors, comment avez-vous réagi à la disparition d'un demi-siècle de bonne collaboration entre votre académie et le comité historique des travaux scientifiques? Le but pour vous, c'était de veiller à la poursuite, j'imagine, de la coopération
naturellement de ces rapports que nous savions extrêmement vivaces, car après la décolonisation, nous avons conservé, ou nous avions la responsabilité à des titres divers, selon des systèmes administratifs divers, de ces antiquités d'Afrique du Nord. Il s'est trouvé que nous sommes un petit peu été déconcertés, et surtout, les différents savants, et en particulier les jeunes savants de ces pays, que ce soit des Tunisiens, que ce soit des Marocains, surtout en Algérie même, puisqu'en Algérie, les rapports s'étaient assez distendus, et c'était en quelque sorte le biais des rapports scientifiques avec les jeunes générations de savants d'Afrique du Nord, se faisait par cet intermédiaire, et c'est à ce moment-là que nous avons pensé à redonner vie d'une façon beaucoup plus active à notre commission de l'Afrique du Nord, d'une part, et d'un autre côté, pour les savants d'entre nous, de faire appel plus largement à l'ensemble de tous les savants français qui s'intéressaient à ce problème et de créer cette société d'études consacrée au problème du Maghreb, que ce soit les antiquités, disons, d'âge classique, que ce soit les antiquités médiévales, contemporaines, les antiquités islamiques. Par conséquent, voyez-vous, j'allais dire de ce malheur, enfin, de ces mauvaises conditions, au contraire, de gagner une formule plus moderne d'association entre toutes les forces vives des érudits d'Afrique du Nord et les forces vives des érudits français.
Belle opération de sauvetage et beau défi. En 2000 a été créée la SEMPAM, la Société d'études du Maghreb préhistorique, antique et médiéval, dont le président était alors Serge Lancel. C'était un grand historien latiniste, spécialiste des civilisations de l'Afrique du Nord, punique, romaine et chrétienne. Jean Leclan, vous êtes président d'honneur de cette société de savants et Jean Desroches, vous êtes l'actuel président. François Desroches, comment est organisée la SEMPAM qui la compose? Quelle est sa mission? Il y a d'autres colloques organisés en dehors de cette journée d'études. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter l'action et les missions de cette société?
Alors, la SEMPAM est une association régie par la loi de 1901, c'est-à-dire qu'elle s'organise dans un cadre tout à fait connu. Elle a bien sûr un conseil d'administration et un certain nombre d'entre nous, justement, sont là pour représenter les différents domaines concernés par les études sur l'Afrique du Nord. Elle essaie, du mieux qu'elle peut, de fédérer les chercheurs qui s'intéressent aussi bien à la préhistoire qu'à l'Antiquité classique, aux Antiquités puniques également, et bien sûr à la période dite médiévale. Le problème, c'est que le Moyen-Âge islamique a tendance à mordre assez sérieusement sur ce que nous considérons comme la période moderne.
La période de l'Antiquité a aussi pris quelques...
C'était large. Quelques ampleurs. Alors, donc, nous avons réussi à réunir à l'intérieur de la SEMPA, mais ça a été surtout l'action de Serge Lancel dans les débuts de lancer cette opération, de réunir les bonnes volontés et de réussir à fédérer les actions des uns et des autres pour montrer que la France n'avait pas complètement perdu pied, qu'elle n'avait pas complètement oublié ses études et qu'elle offrait des possibilités de contact à nos collègues maghrébins, puisqu'ils y sont très attachés, se retrouver dans un cadre institutionnel. Et puis d'autre part, l'idée a été, puisque les séances du CTHS avaient disparu, de trouver d'autres lieux, d'autres occasions de se rencontrer pour discuter de problématiques communes.
Je rappelle pour les internautes qu'il s'agit du Comité des travaux historiques et scientifiques.
L'une des volontés très nettes qui ont été les nôtres dès le début, c'était précisément de réussir à dégager des thématiques qui pouvaient intéresser aussi bien les spécialistes de la, plutôt que la préhistoire, disons la proto-histoire, de l'Antiquité et de la période médiévale, ce qui n'est pas toujours très facile. Par exemple, lorsque nous avons fait cette toute première journée d'études sur le plurilinguisme, les collègues préhistoriens se trouvaient ipso facto un peu tenus en marge dans la mesure où ça n'est pas un sujet qui leur permet de faire des contributions. Mais pour les autres journées d'études, et nous en avons eu plusieurs, on a pu quand même réussir à trouver des thèmes qui réussissaient à fédérer les uns et les autres.
En dehors des journées d'études, la SEMPAM organise des colloques ?
Alors, nous avons déjà eu deux colloques. Le premier a été organisé à Tabarka, c'est un petit peu notre colloque fondateur. Monsieur Leclan était venu porter sur les fonts baptismaux, si j'ose dire, la SEMPAM à cette occasion, et les autorités tunisiennes qui nous recevaient avaient été tout à fait ravies de voir qu'il y avait cette implication française pour la poursuite de relations scientifiques dans ce domaine. Il y en a bien sûr d'autres entre des équipes qui existent, qui ont des chantiers, par exemple, en Afrique du Nord. Mais là, il s'agissait, disons, d'une vision plus large. Et puis après ce colloque de Tabarka, nous avons eu l'an passé, en 2005, un colloque qui a été organisé à Tripoli. Et là encore, Jean Leclan nous avait rejoint et a ouvert les séances dans le cadre du musée de Tripoli, où nous avons été tout à fait magnifiquement accueillis par nos hôtes libyens.
Jean Leclan, combien y a-t-il eu de journées d'études depuis la création de la SEMPAM ? C'est la troisième fois ?
La troisième fois, nous avons eu cette réunion fondatrice à Tabarka, en Tunisie, et puis nous avons eu une deuxième réunion, ici même, dans les locaux de l'Institut, et par conséquent, ces jours derniers, c'était la troisième réunion de la SEMPAM, ce qui demande naturellement une organisation des rapports avec les différents pays du Maghreb qui envoient leurs délégués, etc. Et tout cela s'est passé dans une atmosphère fort sympathique d'amitié et d'un travail scientifique considérable, mené rapidement, mais naturellement agrémenté de conversations nombreuses au cours de toute la journée.
Alors, les sujets abordés les années précédentes, le premier portait sur la musique de l'Afrique du Nord et la seconde sur, le titre est un peu long, mais parcourir, décrire, reproduire l'inventaire de l'Afrique du Nord dans l'Antiquité et le Moyen-Âge, ça a été l'occasion pour vous, savants, académiciens, chercheurs des deux rives de la Méditerranée, de s'interroger sur les sources cette année-là.
Alors, l'intérêt est que nos débats sont très rapidement publiés. Nous avons des séances hebdomadaires à l'Académie Inscriptions et Belles Lettres et elles sont publiées dans ce qu'on appelle les comptes rendus de l'Académie Inscriptions et Belles Lettres, c'est-à-dire ce qu'un langage abrégé, les CRAI. Et les CRAI sont largement diffusés puisque naturellement toutes les académies à travers le monde reçoivent par échange le volume des CRAI et nous avons aussi naturellement des tirages à part. Et ces tirages à part sont fort bien présentés, constituent chacun un petit volume que nos amis maghrébins sont fort heureux de recevoir et naturellement que sur leur conseil, nous diffusons très largement aux différents savants qui à travers le monde entier sont concernés par nos problèmes. Par conséquent, voyez-vous, voilà un plus de publications que notre académie peut offrir à la SEMPAM.
Les internautes peuvent retrouver sur le site internet de Canal Académie, sur le descriptif long qui accompagne l'émission, les références bibliographiques des ouvrages que vous évoquez, Jean Leclan, et qui sont diffusés par les éditions de Bocard. Je rappellerai tout ça en fin d'émission. François Desroches, Qu'est-ce qui a motivé le choix du thème cette année, l'habitat en Afrique du Nord?
Le sujet était en partie dicté par ce souci que nous avons de réussir à dégager des thématiques accessibles pour les différentes périodes. Et l'habitat, bien sûr, est un sujet rêvé dans la mesure où, à partir du moment où il y a occupation humaine, à quelque époque ce soit, on est à peu près sûr de retrouver un habitat. Donc c'était un sujet...
En or pour les archéologues.
Tout à fait en or.
Et pour le grand public.
Voilà, ça permettait d'une part aussi de proposer des images, parce qu'après tout, on aime bien voir les choses. Or là, les fouilles, les maquettes, puisque M. Broise nous a montré la maquette de la maison de la Rotonde, nous avons vu des photos pour la période médiévale de Tunis et des palais des baies. Donc c'était quelque chose qui était tout à fait plaisant dans la mesure où le public pouvait visualiser ce dont il était question. Et puis notre souci, c'est également, au-delà simplement du plaisir d'offrir à chacun la possibilité de parler de ce sujet, il y avait quand même l'idée d'essayer de voir s'il y avait des constantes dans l'organisation de l'habitat, si l'Afrique du Nord respectait certaines traditions. Et effectivement, on voit apparaître certaines orientations dans la façon de concevoir l'espace où habitent les gens, qui sont tout à fait intéressantes. Et puis alors, on parle bien sûr de l'habitat, mais au-delà de l'habitat, ce sont les habitants, bien sûr, qui sont le sujet de nos débats. Ce sont les gens qui étaient derrière tout cela, leur culture, leur organisation, qui transparaît à travers ces vestiges que l'on trouve soit dans le sol pour les archéologues, soit toujours au-dessus du sol pour les architectes qui s'intéressent aux périodes plus récentes.
Alors effectivement, je rappelle le titre de la journée d'études, l'habitat dans l'Afrique du Nord, antique et médiévale, architecture et urbanisme, aspects financiers, juridiques et sociaux. Nous allons marquer une courte pause et nous allons retrouver Jean Leclan, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles lettres, et François Desroches, correspondant de l'Académie, pour continuer à nous parler de cette journée d'études du 24 mars 2006.
L'histoire des hommes, l'histoire des sociétés, l'histoire des mentalités, l'histoire des lieux, l'histoire des événements. C'est un jour dans l'histoire, en direct ou en médiathèque, sur Canal Académie.
Nous retrouvons dans l'émission En colloque Jean Leclan, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles lettres, et François Desroches, correspondant de l'Académie, pour nous parler de la journée du 24 mars 2006 qui s'est déroulée à l'Institut de France autour du thème de l'habitat en Afrique du Nord, dans l'habitat antique et médiéval. Alors nous avons écouté le 24 mars Aïcha Ben Abed, directrice de recherche à l'INP, l'Institut National du Patrimoine à Tunis. C'est une grande spécialiste de Carthage et de la mosaïque antique en Tunisie. Le 26 mars 2006, ce jour-là, elle a présenté plusieurs maisons d'Hammamet à l'époque romaine. C'est une ville qui a d'ailleurs un site archéologique exceptionnel de 4 hectares sur lequel on trouve des maisons, des tombes, une nécropole chrétienne. François Desroches, pouvez-vous nous rendre compte de la communication d'Aïcha Ben Abed qui a évoqué 4 maisons de caractère exceptionnel par leur décoration?
Alors, dans cette ville effectivement très connue sous son nom moderne, qui dans l'Antiquité portait le nom de Puput, Madame Ben Abed s'est intéressée à des maisons dans un des quartiers, une maison qui représentait justement les types les plus saillants de l'organisation de l'habitat dans des quartiers, il faut le reconnaître, plutôt aisés. Ce n'est pas un habitat populaire, c'est un habitat moyen avec quelques zones sans doute dévolues à un artisanat ou à un commerce. Et elle nous a montré comment les mosaïques pouvaient servir à guider la reconstitution de la vie de l'Antiquité, de même que certaines des trouvailles qui ont été faites lors des fouilles de la nécropole voisine. Alors, ce sont des maisons qui datent des 3e ou 5e siècle, c'est-à-dire de l'Antiquité, non pas la plus ancienne, mais plutôt de la période impériale jusqu'au moment de la conquête vandale.
Quelle est la particularité de la maison africano-romaine qu'elle nous a
présentée? Alors, c'est un petit peu ce que nous a fait voir l'intervention suivante, celle de Pierre Gros.
Alors, on y reviendra peut-être
sur laquelle
après.
On reviendra, mais il y a effectivement des caractéristiques qui sont d'ordre de l'organisation de l'espace, les ruptures par rapport à la zone extérieure, l'importance de la cour centrale, et puis les espaces, disons, accessibles à, non pas simplement aux intimes, mais aux gens qui venaient dans la maison. Donc c'était surtout ces parties-là qui ont été explorées par l'intervention d'Aïcha Benhabed, qui sont les plus, disons, les plus décorées.
Et elle a rendu compte, justement, de l'intérêt des décors en mosaïque au sol, et je crois aussi qu'il y en avait dans...
Alors, elle a montré effectivement elle a parlé très rapidement des décors muraux, mais ce sont essentiellement les mosaïques qui nous aident aujourd'hui à comprendre la façon dont les choses étaient conçues par les occupants de ces maisons.
Pour quelles raisons ?
C'est-à-dire que ce qui reste le plus facilement, ce sont bien sûr les choses qui sont à l'horizontale au niveau du sol. Les murs s'écroulent, les vestiges disparaissent. Et on a généralement dans la partie inférieure des murs quelques éléments qui peuvent rester, mais c'est souvent assez peu, alors que les mosaïques, elles, nous donnent parfois l'intégralité du décor d'un seul coup d'un seul.
C'était très impressionnant. Les photographies montraient bien le sol, mais on avait l'impression de voir un tapis actuel.
Alors bien sûr, elles ont essayé. Ces mosaïques ont toutes été restaurées, elles ont été trouvées, mais elles avaient besoin d'être remises en état, puisque la destruction des maisons s'est toujours accompagnée de quelques, disons, désordres dans l'arrangement des tesselles de céramique. Mais ce qui est extraordinaire, effectivement, c'est de rencontrer à l'heure actuelle ces décors pratiquement dans leur intégralité.
Presque intacts.
Sauf, bien sûr, ça et là, quelques tableaux teints qui ont été la proie d'un pilleur qui a sans doute mis ça sur le marché.
Alors, après l'intervention de Madame Aïcha Benhabed, Pierre Gros, correspondant de l'Académie, a évoqué une synthèse récente sur l'habitat des classes dirigeantes dans la Tunisie antique. Monsieur Desroches, pouvez-vous nous dire un petit peu le contenu de cette synthèse et ça va être l'occasion justement de voir un peu quelle est la particularité de l'habitat d'Afrique du Nord.
Alors, il s'agit donc d'un ouvrage rédigé collectivement et édité sous la direction de Madame Guédini, qui est professeure à l'université de Padoue. C'est un ouvrage qui propose une typologie, un classement des différents types de pièces. Elle a travaillé sur un corpus de maisons romaines de l'ordre de un petit peu moins de 150 maisons, ce qui est quand même un bel échantillon pour la province de l'Africa, qui correspond grosso modo au territoire de la Tunisie actuelle. Et donc à l'intérieur de cet ouvrage, on trouve, disons, deux pistes. L'une, c'est une piste locale qui essaye d'évoquer les spécificités de l'organisation de l'espace de l'habitat dans cette région. Et le deuxième axe, c'est celui des modes propres à l'ensemble de l'Empire romain, puisqu'il y a quand même des constantes qui se retrouvent en Tunisie, mais que l'on trouverait dans des maisons de la Gaule romaine ou de régions plus orientales. Donc il y a ces deux aspects qui sont abordés dans ce livre. Et alors ce qui est intéressant, effectivement, ce sont toutes ces fiches descriptives qui accompagnent l'ouvrage et que Pierre Gros nous a fait voir, qui, grâce à un jeu de symbolique colorée, c'est-à-dire à chaque type de pièce est affectée une couleur précise, permet de voir certaines constantes de l'organisation. Alors c'était Pierre Gros a beaucoup insisté sur l'aspect réception. Ce sont là encore une fois des maisons des classes aisées. Donc là, nous n'avons pas affaire à un habitat populaire. Ce sont des maisons de personnes tout à fait importantes et qui ont en particulier un devoir de recevoir toute une série de gens. Et sur ce plan, justement, on voit comment toutes sortes de stratégies sont développées pour canaliser les visiteurs, mettre en valeur le maître de maison, établir les hiérarchies de manière tout à fait claire.
Donc les couloirs, les accès ont une importance pour déterminer
voilà,
ces typologies.
Voilà, il y a une sorte de parcours qui mène vers la pièce de réception, par exemple, qui est tout à fait intéressant. Et Pierre Gros a, de manière tout à fait lumineuse, mis en valeur ces aspects de cette publication.
Nous avons ensuite écouté Henri Broise, qui est architecte de formation, si j'ai bien compris. Henri Broise qui est venu nous parler de l'évolution de l'insula de la maison dite de la rotonde à Carthage des origines à l'époque byzantine. Et là, on s'est intéressé donc du coup à un habitat populaire et à la ville aussi, au plan de ces villes antiques romaines surtout.
Alors, à la différence de Madame Benabed, qui s'est intéressée à tout un quartier, en prenant l'exemple de quatre maisons, Henri Broise a changé d'échelle. On se focalise sur un même endroit, un groupe de lots de terrain faisant partie d'une même insula, et on étudie la façon dont, au cours des siècles qui séparent la fondation de la colonie romaine de Carthage et l'invasion vandale, on va même un petit peu au-delà, les choses se passent. Et alors on constate effectivement qu'après une première période où les lots initiaux sont utilisés de manière individuelle, des opérations immobilières, pour parler un langage moderne, conduisent un propriétaire à faire l'acquisition de plusieurs lots et à prendre donc un bon bout de cette insula pour en faire la maison de la Rotonde, qui est non pas le tout dernier état, puisqu'il y a un état byzantin qui est venu au-dessus, mais l'état relativement intact, le plus récent de cette insula. Et alors on voit également comment ce personnage, qui avait sans doute des moyens, en profite également pour grignoter l'espace public en installant
c'était
une partie
riche
de sa maison.
Voilà, c'était enseignement sur le sol public, et on pouvait constater que les problèmes des hommes sont les mêmes depuis quelques siècles.
Voilà, et donc pour qui a visité des villes en Afrique du Nord, on retrouvait justement ces problèmes d'empiètement sur l'espace public et de rétrécissement des rues, qui est un phénomène qui se généralise vers cette période des 5e, 6e siècles et qui va rester très important.
Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, au moment de l'introduction, Henri Broise a effectivement montré des maquettes, des reconstitutions parlantes. Et il a aussi évoqué le fait d'une organisation de l'espace nouvelle, différente, qui a évolué à cette époque, à l'époque des Vandales.
Alors, la ville...
Parce que là, on voit l'évolution de la ville.
Voilà, c'est la ville tout entière qui est concernée.
Enfin, qui bouge, qui évolue.
Ou qui est plutôt obligée d'évoluer à l'intérieur de ses murailles, puisqu'elle ne peut plus bouger d'une autre façon que dans une zone fermée.
Elles étaient entourées de murs, oui.
Voilà, les conditions de l'époque ont changé et on est obligé, disons, de trouver l'espace là où il reste. C'est effectivement l'espace public qui est le premier menacé par cette tendance lourde dans l'évolution de l'urbanisme. Et donc, par le biais de cette maison, on voit à la fois les problèmes d'habitat, puisqu'on étudie une maison, et en même temps, on voit l'urbanisme de Carthage à cette époque où les invasions vandales modifient considérablement la situation.
Alors, après avoir évoqué la privatisation de l'espace public à cette époque, nous avons écouté M. Sid Ahmed Bakli, conseiller culturel à la délégation permanente d'Algérie auprès de l'UNESCO, qui a évoqué l'exemple du Palais du Dey et qui s'est interrogé sur tous les problèmes de sauvegarde du patrimoine et a porté à la connaissance de l'assistance, ses préoccupations.
Là encore, nous avons changé d'époque radicalement, puisque nous nous sommes transportés...
Pardon, j'avais oublié de le dire, oui.
Nous sommes à une époque plus tardive, au XVIIIe siècle, et effectivement, tout le problème qui se pose, c'est celui de la conservation de ce patrimoine qui n'a pas toujours été entouré d'autant d'égards que des vestiges plus anciens. Enfin, il faut quand même rappeler que assez rapidement, la France s'est souciée en Algérie, comme elle le fera plus tard en Tunisie, au Maroc, de mettre en place des législations pour protéger le patrimoine, des législations qui finalement, à l'heure actuelle, se révèlent précieuses pour ces pays qui ont conservé des vestiges importants, là où dans d'autres régions, on a fait un petit peu le nettoyage de la partie ancienne des villes.
Alors, Sid Ahmed Bakli a justement évoqué le palais du Dey et toute l'histoire de ce palais, ses différentes occupations au cours du temps, et on pouvait imaginer les problèmes que ça pouvait poser d'entretien, de conservation du patrimoine et autres. Et finalement, en 1992, le palais a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Absolument. Et alors bon, effectivement, on pourrait demander à des témoins comme M. Leclan, qui a vu l'état de la vieille ville d'Alger à cette époque. Bon,
c'est... Oui, tout un effort de restauration de la Casbah, naturellement. Et là, dans les parties hautes de la Casbah, la récupération d'un certain nombre de locaux, soit pour des instances administratives, soit aussi pour des instances culturelles consacrées en particulier à la restauration ou à l'aménagement des locaux à travers la ville d'Alger.
Il y avait un projet de musée d'ailleurs ?
Oui, Monsieur Barly évoquait effectivement des projets de musée. Donc, il y a déjà actuellement un musée, mais on souhaite élargir, disons, l'ampleur de ces institutions.
L'après-midi du 24 mars, la séance habituelle de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, présidée par l'académicien helléniste Jacques Joanna, a prolongé la journée d'études nord-africaines, cette année consacrée, je le rappelle, à l'habitat dans l'Afrique du Nord antique et médiévale. François Desroches, cet après-midi-là, la communication de René Rebuffat a traité de l'habitat en Mauritanie tingitane. Pouvez-vous nous la résumer ?
Alors bon, c'était une communication qui était effectivement très riche dans la mesure où sa longue expérience des chantiers de fouilles du Maroc ont permis à René Rebuffat de nous donner un panorama très complet des maisons dans l'espace urbain, mais également en dehors des murs de la ville. C'est vrai que les communications du matin se sont plutôt centrées sur un habitat urbain, ce qui est normal dans la mesure où la documentation est particulièrement riche. René Rebuffat a eu le souci de rappeler qu'il y avait aussi des fermes, une occupation de l'espace rural. Et bien sûr, même si les vestiges que nous connaissons sont assez limités parce que les fouilles ont été assez incomplètes, voire il s'agit parfois simplement de signalements de vestiges, et non pas de fouilles en bonne et due forme, mais il a essayé de couvrir donc cette diversité de l'habitat dans la Mauritanie tingitane, c'est-à-dire, rappelons-le, la région qui correspond à l'extrémité occidentale de l'Algérie et au nord du Maroc.
Ensuite, Mourad Rama et Patrice Cressier ont fait une communication sur le palais fatimide de Sabra Mansouria près de Kairouan. Mourad Rama est conservateur de la Médina de Kairouan et Patrice Cressier est directeur de recherche au CNRS. François Desroches, les fouilles archéologiques franco-marocaines de ce site-là, encore exceptionnel, du Xe siècle, ont repris en avril 2003, après plusieurs années d'interruption.
C'est une communication qui était tout à fait intéressante dans la mesure où elle touche un sujet dont on a beaucoup parlé, mais pour lequel on a assez peu d'éléments. L'actuel Kairouan a été à un moment la capitale de l'État fatimide, au 10e et début 11e siècle, Et donc les fouilles sur cette région permettent de reconstituer l'espace urbain fatimide. C'est une fouille difficile dans la mesure où les pilleurs ont pris toutes les pierres qui pouvaient servir à construire la ville de Kairouan, qui a continué à se développer après cela. Et donc c'est presque une fouille en négatif, c'est-à-dire qu'on voit apparaître les trous laissés par les gens qui ont retiré les matériaux de construction, et les fouilleurs ont donc beaucoup de mal à se repérer dans cette structure très complexe. Cela étant, donc, on voit apparaître toutes sortes d'indications sur la vie de Kairouan à cette époque, au Xe siècle. On voit mieux la chronologie de la céramique. On a même eu la chance de trouver des vestiges de fours. On a vu justement que les fouilleurs avaient mis à jour des fragments de verre qui étaient fabriqués sur place pour les faire des vitres, des morceaux de verre donc, qui étaient d'un seul tenant et qu'après cela ont cassé pour fabriquer des vitraux dont, comment dirais-je, le support, l'armature, était en plâtre. Donc ce sont des trouvailles tout à fait importantes qui illustrent une phase très spectaculaire de la vie de Kairouan, puisque c'est le moment où elle devient vraiment le centre d'un empire, avant que les Fatimides ne se transfèrent au Caire et que Kairouan redevienne une ville, disons, un peu moins importante.
La dernière communication de la journée fut celle d'Ahmed Sadawi, qui est professeur à l'université de la Manouba. Le sujet traitait des palais et des résidences des Bey Mouradites à travers l'étude des archives de Wakf.
Effectivement, c'est une particularité du droit musulman qui permet d'immobiliser un bien, qui peut être le plus souvent un bien immobilier, mais ça peut être aussi un livre. Donc on l'immobilise, c'est le sens du mot waqf, et son usage est alors restreint à des conditions très précises en ce qui concerne les utilisateurs, le lieu, etc.
Les conditions juridiques.
Les conditions juridiques très précises qui sont contrôlées par le cadi qui a la haute main sur la législation qui touche assez bien. Alors, il s'agit en l'occurrence d'un dispositif qui est surtout destiné à éviter les confiscations dans le cas qui nous occupe, puisque les Bey savaient que, disons, la vie publique est un petit peu incertaine, et les waqf sont une façon de transmettre les biens de génération en génération.
C'est une façon de gérer son héritage.
Voilà, c'est ça. On crée en quelque sorte une fondation pour la famille, de manière à ce que, lorsque l'autorité centrale à Istanbul, qui pouvait de temps à autre avoir envie d'arrondir les fins de mois en mettant la main sur des biens de tel ou tel gouverneur qui avait déplu, se trouvait face à un problème juridique puisqu'on ne pouvait pas impunément demander l'annulation d'un waqf. Donc il a montré comment cette documentation que l'on a conservée dans les archives de Tunis permet de comprendre la façon dont les chantiers étaient organisés, connaître également les coûts.
Vraiment des, on avait des précisions, c'est, voilà, c'est, des très, informations
c'est très détaillé,
très précises,
on
le
sait
coût,
presque
le nombre de jours d'heures
voilà,
travaillées.
On peut reconstruire les chantiers de manière assez précise et surtout préciser les dates des monuments, parce que parfois les historiens précédents estimaient la période de manière un petit peu floue. Là, en revanche, on sait que les chantiers ont eu lieu entre telle et telle date, et donc l'histoire de ces bâtiments devient parfaitement claire et sans ambiguïté.
Jean Leclan, quel était donc l'objectif de cette journée d'étude pour conclure ?
Mais c'était, si vous voulez, l'objet, et ensuite ça a été suivi naturellement de réception, de conversation, etc. C'était essentiellement à la fois la possibilité de poser ces problèmes généraux sur les conditions de l'habitat en Afrique du Nord, mais c'était aussi l'occasion de discuter plus largement des problèmes de coopération entre nos amis tunisiens, marocains et algériens et leurs collègues français. Par conséquent, très très heureux de ces liens qui s'affirment désormais. Nous avons eu la visite de l'ambassadeur de Tunisie, celle aussi de hautes autorités culturelles algériennes et marocaines. Et par conséquent, nous sommes heureux que l'Institut de France s'insère dans un dispositif général, scientifique, des rapports entre la France et l'Afrique du Nord. C'est un domaine de recherche traditionnellement très actif, mais qui, naturellement, pour des raisons d'ordre politique en particulier, peut parfois connaître un certain affaiblissement, un engourdissement, et par conséquent, une redynamisation était absolument utile. Et tout cela va être suivi par des rencontres en Tunisie, des rencontres au Maroc, et nous espérons aussi une reprise du secteur de l'archéologie en Tunisie même. Entre-temps, notre académie avait publié, avait terminé un grand projet pour lequel il manquait encore un volume extrêmement important d'inscriptions latines en Afrique du Nord. Et malgré les difficultés des années dernières, nous avions réussi à sortir ce volume et nous en sommes heureux et fiers. Mais désormais, nous pensons que toutes ces initiatives à travers la Méditerranée, de la rive nord à la rive sud et vice-versa, vont connaître l'épanouissement nécessaire et par conséquent qu'un secteur important de ces recherches sera vivifié grâce à l'action de l'Académie.
Nous arrivons au terme de notre émission. Vous pouvez retrouver le programme de la journée d'études du 24 mars et des références bibliographiques sur le site internet de Canal Académie dans le descriptif qui accompagne cette émission. Jean Leclan, François Desroches, il me reste à vous remercier et à donner rendez-vous à nos auditeurs pour une prochaine émission en colloque.